Pour la première fois, la mondialité signifie que tout le monde va partout, possiblement, et que tout le monde a une connaissance de tout le monde. C'est bien le problème de l'ethnologie, c'est que l'ethnologie, elle a de moins en moins d'objets à se mettre sous la dent, c'est-à-dire de mondes, de sociétés qui seraient totalement autres, extérieurs, inconnus au monde de l'ethnologue, c'est-à-dire le monde occidental. La difficulté de l'ethnologie est une difficulté humaine générale qui est qu'elle est inévitablement une forme d'ethnocentrisme, d'anthropocentrisme aussi, mais là en l'occurrence d'ethnocentrisme. On ne peut pas faire autrement que de considérer une culture étrangère ou une peuplade étrangère, une tribu, à partir de notre point de vue. C'est inévitable. Voilà, donc. Cette dimension de mondialisation, de mondialité, je préfère ce terme d'ailleurs parce que le mot mondialisation a été uniquement attaché au monde économique, ce qui correspond à l'anglais globalisation. Alors que mondialité, c'est Daniel de Roulet qui affectionne ce terme, indique davantage la constitution d'un monde unifié. Alors ça ouvre plein de problèmes d'ailleurs qu'on ne traitera pas là, mais on y reviendra peut-être par la suite. Ce monde unifié est de plus en plus un monde connecté, ce qu'on appelle un monde connecté. Et ce monde connecté pose des problèmes d'ores et déjà politiques énormes, gravissimes. Le monde connecté, c'est apparemment une utopie. C'est l'utopie qu'il faut prendre très au sérieux des grands fondateurs, des grandes multinationales de la connexion. À savoir, je vais citer des noms parce que c'est plus significatif, Google, Facebook, Twitter, et ainsi de suite. Apple. Il faut lire les textes parce que c'est très explicite de ces fondateurs ou des dirigeants qui ont succédé aux fondateurs si les fondateurs sont morts. On voit très clairement leur idéal, ce qu'ils visent. Et en fait, c'est un projet politique mondial. Ce qu'ils visent clairement, c'est ceci. Il faut que tout individu sur la planète, par les connexions qui le relient au tout, que cet individu n'ait plus de secret, n'ait plus de secret pour, en l'occurrence, les multinationales. C'est un projet holiste, mais un projet holiste qui est en cours de construction. Aux États-Unis, on construit dans des grottes d'énormes chambres de données où peuvent être traités tous les profils, à partir de toutes les connexions et la mise en lien de toutes les connexions, tous les profils de tous les, potentiellement, on n'en est pas là, de tous les individus vivant sur Terre. Oui, les Mormons, c'est un projet un petit peu différent. Les Mormons, c'est un projet de généalogie. Donc c'est un sous-projet de ça. Mais vous savez, ce n'est pas un hasard qu'un certain nombre de dirigeants de ces multinationales qui poursuivent ce projet-là sont mormons par ailleurs. Et donc, cette société connectée mondiale, elle s'expérimente déjà dans des villes, par exemple aux États-Unis, ils sont en train de construire le renouveau, donc ça paraît magnifique, la renaissance, parle-t-il, d'une ville comme Détroit, qui est une ville qui est en ruine avec l'effondrement de l'industrie automobile américaine. Donc c'est une ville où il y a une misère considérable. La moitié des bâtiments, que ce soit des bâtiments industriels ou d'habitation, sont en ruine, sont complètement en ruine. Et là, ce monde de la connexion est en train de produire une renaissance de Détroit. Pourquoi Détroit? Ben parce que c'est une ville qui a fait table rase. La table rase, elle s'est faite toute seule, donc c'est facile de reprendre en compte Détroit. Pour en faire ce qui sera l'idéal du monde et l'idéal de la ville, une smart city, avec des smart individus. Donc smart en anglais, vous voyez ce que ça veut dire, c'est passé dans le langage français. C'est brillant, brillant intellectuellement. C'est quelqu'un qui a un esprit brillant, voilà, un esprit brillant. Donc, la Smart City, c'est l'idéal de la ville connectée où tous les individus sont en lien permanent à travers un centre de données. Alors, les algorithmes permettent, c'est-à-dire ces calculs mathématiques permettent de traiter des données, des paramètres considérables pour construire des profils. Donc c'est à travers le profilage des individus que l'on poursuit cette idée, cette utopie de tout connaître à travers des profils des individus existants sur Terre. Donc là, c'est un projet qui récuse définitivement la possibilité qu'il y ait des étrangers à terme. Il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus d'inconnus. Face à cela, évidemment, il y a la tentation de la résistance, ce qui est légitime. Et la tentation de la résistance, c'est de dire, ben, je me déconnecte de tout. Je connais des gens, y compris dans le coin, qui n'ont plus Internet, qui n'ont plus de téléphone. Mais le problème qui se pose, c'est que les smart malins ont prévu cela. Donc, il est prévu une catégorie de population sur laquelle on n'aura pas de données permettant de construire leur profil, d'avoir une connaissance de leur profil. C'est prévu. Et ça constituera un fichier à part. Donc, ils seront complètement cernés. Non sans inconvénient, d'ailleurs pratique, c'est qu'à terme, on peut imaginer que ceux qui seront dans ce fichier-là auront, par exemple, tous les ennuis du monde pour passer la frontière des aéroports. Vous arrivez à l'aéroport d'Atlanta, je pense à lui parce que j'en ai une expérience assez impressionnante d'ailleurs, et si vous êtes dans le fichier nos profils, vous serez très embêté, c'est-à-dire que vous serez obligé de répondre, de vous constituer le profil en vitesse, autrement vous serez dégagé. Voilà, donc ce contexte de la mondialisation, vous en voyez les enjeux, y compris du point de vue d'une intolérance ultime à ce qui échappe, qui reste dans une forme d'extériorité. Donc on voit que l'enjeu est considérable. Oui, ça rejoint les romans d'anticipation, Huxley. Il y a une esthétique derrière et qui est clairement définie. C'est-à-dire que les gens de Google, etc., parlent du beau. C'est un ordonnancement géométrique du beau. Et vous savez que l'usage des algorithmes qui construisent des profils, vous en faites déjà l'expérience sur Internet. Si vous cherchez des livres sur Internet, si vous cherchez par la FNAC ou n'importe quel produit, vous allez recevoir après plein de pubs correspondant à ce qu'on a déterminé comme vos centres d'intérêt. De même, ben, la FNAC fait ça sur les livres, par exemple. Vous avez fait des recherches, non pas pour acheter les livres à la FNAC, pour acheter dans une librairie, c'est impératif. Et là, entre parenthèses, vous échappez au profilage. Aussitôt, on va, à partir de recherches précédentes que vous avez faites, on va vous mettre toute une liste d'autres livres possibles. Et la connexion, il faut savoir qu'elle apparaît toujours comme sous le signe du meilleur, du mieux, du progrès, du bien-être. Prends un exemple. Vous savez qu'on avance à très vive allure, et ce n'est pas une utopie technique lointaine, assez vite, on pourra piloter, on ne les pilotera pas, occuper des voitures sans chauffeur. Mais réellement sur les routes, pas sur un circuit particulier, on pourra faire un voyage Paris-Marseille en lisant. Donc voilà, ça apparaît toujours comme du mieux. Sauf que la conséquence immédiate de cela, pensez-y, c'est qu'on est en mesure, à partir de là, à suivre les déplacements à la surface d'un territoire de toutes les populations. Les déplacements n'auront plus de secret pour personne. Donc, la mondialité qui est susceptible d'amener ce monde homogénéisé au bout du compte, homogénéisé où il n'y aurait que du même au final, et où aucun individu n'échapperait à une espèce de regard panoptique, ça a dans l'immédiat des conséquences empiriques, disais-je, du point de vue de la démographie. C'est-à-dire que le monde est confronté, comme jamais, ça n'a été, à un phénomène de population mouvante. De population mouvante qui seront toujours perçues dans la terre d'immigration comme des étrangers. C'est fondamentalement cette accélération du volume du flux des populations mouvantes à des causes connues dans le contexte de la mondialité. Elle est liée au déséquilibre de toutes sortes qui se font jour sur la planète. Donc ce sont évidemment, probablement en premier lieu, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, les déséquilibres climatiques, disons écologiques plus largement. Qui est que ça commence, des populations sont obligées de quitter leur terre d'origine parce qu'elle n'est plus vivable, que ça soit des terres inondées, Je pense que, hélas, n'est pas lointain le temps où le Bangladesh ne sera plus vivable. Il faudra le quitter parce qu'il sera sous les eaux. C'est aussi les zones les plus désertifiées qui soient, qui seront de moins en moins vivables qu'ils sont déjà. Par exemple, l'histoire du Sahara, on la connaît parfaitement. Le Sahara n'a pas toujours été le désert qu'il a été. Ça, on le sait. Je veux dire, il y a des historiens du climat. L'histoire des climats est connue et est construite des savoirs de plus en plus précis. Donc, déséquilibre écologique, climatique, déséquilibre économique, ça, c'est pas nouveau. Sachant que les déséquilibres économiques qui provoquent ces migrations économiques sont en train de changer de nature, je l'avais évoqué l'autre fois, je le redis. Ce n'est plus simplement le problème des pays du tiers-monde vers les pays riches, des richesses. C'est les pays en développement vers les centres de savoir. Concrètement, ça veut dire qu'il y a de plus en plus des migrations de gens éduqués, voire parfois très éduqués, de pays du Sud, qui touchent les limites des ressources dans leur pays et qui, pour progresser encore, sont amenés à aller vers les pays où les ressources de savoir sont supérieures. Mais ça, du coup, ça ne concerne pas que le sud vers le nord, ça concerne aussi l'est et l'ouest, ça concerne l'Europe vers les États-Unis, par exemple. Enfin, voilà. Donc, les migrations économiques sont plus complexifiées qu'elles n'ont été avant. Ça ne touche pas simplement à un équilibre de richesse, ça touche aussi à un équilibre des savoirs. Des savoirs qui ne sont pas répartis également sur la surface du globe aujourd'hui. Ça produit aussi un lien avec le terrorisme. Ça, c'est clair, sachant que les terroristes, ce n'est pas forcément des gens qui n'ont pas de savoir. Au contraire, c'est des gens qui ont fait des études, souvent. Ce sont des déséquilibres, donc culturels, on pourrait le dire aussi, de ce point de vue-là. Ce sont des déséquilibres politiques, et je dirais même militaro-politiques. On a un phénomène qui s'accentue de plus en plus ces dernières décennies, de populations migrantes qui ont un statut reconnu ou pas, de droit ou de fait, de réfugiés politiques. Ben regardez ce qui se passe de plus en plus sur les côtes grecques et italiennes. Une bonne partie de ces migrants, s'ils ne sont pas noyés, à Lampedusa ou autres, proviennent des pays en guerre civile, qui sont strictement invivables. Donc de plus en plus, on a des Syriens, des Éthiopiens, des Érythréens, des Irakiens, etc. C'est une arme parce que je dis que cela, c'est une arme qui est réaliste parce que Daesh, ce n'est pas un groupe terroriste, comme on le dit, c'est une nouvelle forme d'État. Il faut prendre au sérieux la formule État islamique, même si ce n'est pas une traduction mécanique de Daesh, qui ne veut pas dire État islamique, peu importe. État islamique, il faut prendre au sérieux la formule. Elle indique que ça n'a rien à voir avec un groupe terroriste. C'est une nouvelle forme d'État qui se constitue avec tous les attributs d'un État. Puissance militaire, puissance économique, puissance financière, contrôle des populations, ce qui est le rêve de l'État, ce que Michel Foucault appelait le biopouvoir, qui est une invention du pouvoir d'État moderne. Il situe ça avec l'avènement de la période classique dans son découpage de période, c'est-à-dire le XVIIe. Et le biopouvoir, c'est fondamentalement la maîtrise des populations sur le territoire. L'invention du recensement des populations a été le premier outil du biopouvoir, par exemple. Alors, voilà, tous ces déséquilibres, j'ajouterai aussi les déséquilibres sanitaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même offre de soins partout. Et d'ailleurs, ça amène de la migration temporaire, mais de la migration quand même, de catégories de populations différentes. Il y a ceux qui essaient relativement pauvrement de trouver une solution pour se faire soigner dans un hôpital ici, mais ça concerne dans les pays où l'offre sanitaire est moindre, ça concerne les populations les plus riches de ces pays-là. Ce qu'aujourd'hui on dénonce comme le tourisme sanitaire. C'est-à-dire, par exemple, une femme de la haute bourgeoisie d'un pays du Sud qui va venir en France pour se faire de la chirurgie esthétique. C'est ce qu'on appelle le tourisme sanitaire. L'offre sanitaire, elle n'est pas répartie n'importe comment. L'offre sanitaire la plus sophistiquée, elle est quand même dans les pays d'Europe et aux États-Unis, avant tout. Par exemple, dans la migration sanitaire, les gens qui vont venir en Europe viennent pour y trouver une offre qu'ils ne trouvent pas chez eux. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils veuillent vivre durablement et s'installer durablement en France, par exemple. Ils peuvent récuser un certain nombre d'aspects de nos modes de vie et ne tiennent pas forcément à vivre ici. Et même l'immigration plus classique qu'on connaît des travailleurs immigrés. Le drame des travailleurs immigrés maghrébins, africains, c'est qu'ils estimaient ne pas avoir le choix pour survivre, pour avoir des revenus, que de venir en France, par exemple. Mais aucun, ou quasiment aucun, n'avait le projet, en venant en France, d'y rester. Le problème, c'est qu'ils sont piégés en France, ils se trouvent devoir rester. C'est le piège de tous ces vieux travailleurs immigrés dans les foyers, qui sont célibataires et qui vieillissent ici, parce qu'ils n'ont plus les possibilités de retourner dans leur pays. C'est l'effet de la mondialité qui est que la circulation, pour quelque raison que ce soit, à travers la planète, est facilitée comme elle n'a jamais été. Mais il y a des raisons très pratiques, très empiriques. Aujourd'hui, tout le monde, en gros, peut prendre l'avion pour presque, même financièrement, pour aller d'un point à l'autre. Ce qui n'était pas vrai il y a encore 20 ou 30 ans, parce qu'il y avait beaucoup moins de lignes, il y avait beaucoup moins d'aéroports, de compagnies, et ça coûtait très cher. Il y a les deux aspects. Il y a cette espèce de facilité qui est un effet de la mondialité, qui est que tout circule partout, c'est-à-dire que notre planète, plus ça va, devient à l'image de l'économie financière. C'est-à-dire que c'est un monde de plus en plus fluide. Je pense que la mondialité crée quand même de l'homogénéité très forte, plus peut-être que de l'hétérogénéité. Elle crée des déséquilibres qu'on a pointés de toutes sortes. Je ne suis pas sûr qu'elle crée de l'hétérogénéité. Pour créer de l'hétérogénéité, il faut qu'on soit dans le vivant. Parce que le vivant, l'expansion du vivant par nature, invente des formes toujours plus multiples. D'où le problème de l'endogamie. C'est-à-dire que l'endogamie, son terme, c'est la mort. C'est-à-dire qu'on crée des individus de plus en plus débiles. C'est le mariage entre soi. Je crois que notre monde va dans le sens de l'homogénéité d'abord. L'exemple des villes, c'est que de plus en plus, on est dans un monde urbain. Partout, à la surface de la planète, ce qui n'était pas le cas avant. On ne parle pas de la ville. Il faudrait faire, je laisse de côté la question, tout le distinguo socio-historique entre ville et urbain. Je pense que l'urbanisation tue la ville, telle qu'on l'a connue. Et donc l'urbanisation est un monde homogène, peu à peu, qui s'homogénise au niveau de la planète. Au sens où elle obéit, l'urbanisation, elle obéit tendanciellement à une conception d'un univers, d'un être ensemble, qui n'obéit qu'à une rationalité fonctionnelle. Et que la rationalité fonctionnelle, elle est pensée inévitablement selon un même modèle. Ce qui fait que peu à peu, dans toutes les villes, même en Afrique ou en Amérique latine, on va voir surgir des zones commerciales à peu près identiques. L'urbain est amené à créer un monde non plus de producteurs, mais de consommateurs, même dans les zones pauvres. Ce n'est pas parce qu'il y a des pauvres, ultra pauvres, dans des bidonvilles, qui, peu à peu, ils ne se transforment pas vers un statut de consommateur. Il y a des consommateurs pauvres. Je pense que cette transformation du rapport à la nature, définitivement, elle s'est engagée avec l'humanisme européen de la Renaissance. Ce qui résume ce programme de la modernité, c'est l'invention de la modernité, c'est le fameux dessin dont j'avais déjà fait un commentaire de Léonard de Vinci, le cercle et l'homme membre écarté qui figure les rayons et le nombril figure le centre du cercle. C'est là, fondamentalement c'est là, parce que tant qu'on était dans une société, par exemple, théocentrique, que ça soit monothéisme ou polythéisme, la société théocentrique, c'est-à-dire qui met un dieu, un principe tout autre au centre, ou des tout autres au centre, les dieux, elle a comme conséquence que l'homme construit une société dont il sait qu'elle est commandée par quelque chose qui lui est extérieur. L'invention de la société anthropocentrique, donc l'humanisme de la Renaissance, 16e, fait qu'on entre dans une perspective très différente. D'ailleurs, l'invention de la perspective en dessin est l'illustration magnifique de cela. On entre dans une perspective différente où la société, l'être ensemble qui est construit par les hommes, n'obéit pas, ne doit pas obéir à d'autres lois que la loi rationnelle de l'humain, que la volonté de l'humain. C'est là qu'il y a un basculement quand même très déterminant, mais je pense qu'on est en train de toucher à la fin de cela, pour une part, malgré l'utopie des connecteurs, des smarts, au sens où de moins en moins de gens, par exemple, croient à l'idée de progrès aujourd'hui. Une des conséquences de cela, c'est la dépression collective qui caractérise les sociétés européennes, et en particulier la France. On est dans des sociétés collectivement dépressives. Et je pense que ça, c'est la conséquence qu'on n'a pas digérée et dépassée, pour penser les choses autrement, du fait qu'on ne croit plus, parce que c'était une croyance, dans l'idée de progrès. D'autre part, je crois d'ailleurs sur des formes très diverses, et dont certaines sont très inquiétantes d'ailleurs, que se développent de plus en plus, et notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, des philosophies et des anthropologies de la nature. C'est-à-dire qui veulent réintroduire la nature au centre. Ça inspire ces philosophies, dont certaines sont extrêmement radicales, ça inspire d'ailleurs des mouvements, y compris terroristes, bizarrement, du type par exemple les animalistes américains, qui créent des commandos, en allant jusqu'à Mordhomme, pour détruire des laboratoires pharmaceutiques qui font des expérimentations sur des animaux. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, hein. Je dis simplement que tout ça, c'est la pointe extrême d'un mouvement de retournement qui est en train de se produire et qui montre que ce qui s'est inventé avec l'humanisme de la Renaissance est, je pense, en train d'être terminé, ce qui fait qu'un certain nombre à la fois de philosophes et d'historiens disent qu'on est clairement rentré dans le post-humanisme. On a parlé du post-moderne, mais plus que le post-moderne, on est en phase d'entrée dans le post-humanisme. Voilà, alors simplement, je voudrais en terminer avec les différentes dimensions de manifestation du problème de l'étranger comme enjeu aujourd'hui. Donc on a largement exploré la question resituée dans la mondialité des migrations. Il y a quelqu'un que je fais venir au banquet d'été qui s'appelle Alain Tarius, qui va sortir là un livre très intéressant justement sur ce phénomène de ce qu'il appelle les populations mouvantes. Et aussi les étrangers de passage, quoi, des gens qui vont s'installer pendant, mais même au sein de l'Europe, vont s'installer pendant quelques mois ou une année dans tel pays, et après qui vont partir dans tel autre pays au gré, je dirais presque du vent et des circonstances pour eux. Et c'est des populations qui sont atomisées et mouvantes en permanence, et dont il montre que c'est une catégorie de population nouvelle dans son ampleur, et qui croît de plus en plus. Mais, par exemple, on l'observe ici même, à la Grasse et dans les environs. Je pense, par exemple, aux Polonais, pour prendre un exemple d'ici. Des gens qui viennent, ils sont forts, le bâtiment ils connaissent, viennent travailler ici, mais qui, s'il n'y a plus de boulot ici, vont aller en Italie, et le lendemain, ils peuvent aller en Allemagne, etc. Ces populations qui sont véritablement déracinées, qui se pensent comme des espèces d'atomes mouvants, qui sont des étrangers de passage. Et ça, c'est un phénomène qui s'amplifie et que Alain Tarius étudie et dont il nous entretiendra cet été. Le problème des étrangers est un enjeu de plus en plus marqué sur un plan strictement politique et idéologique. Je dirais le seul discours politique aujourd'hui tourne autour de la question des étrangers, de l'étranger. Alors, de différentes manières, c'est-à-dire qu'il y a tout le discours sécuritaire autour de cela, mais qu'il faut entendre au sens anthropologique profond, c'est-à-dire qu'il faut, si on veut bien comprendre les choses, il ne faut pas barrer d'emblée notre compréhension par un jugement moral, il faut aller au fond des problèmes. C'est-à-dire on retrouve Hobbes, on retrouve la Grèce antique, j'aborderai ça la prochaine fois, qui est qu'inévitablement, l'étranger apparaît d'autant plus comme une menace que la mondialité fait que la construction des identités individuelles et collectives est devenue problématique. Que veut dire qu'au fond, au-delà du sécuritaire, le discours politique, l'idéologie politique qui monte en puissance, qui est le symptôme de l'enjeu de l'étranger, c'est le discours identitaire. Le discours identitaire dont la pointe extrême c'est les blocs identitaires. Donc ce qu'on appelle strictement en France le bloc identitaire, qui est un groupuscule, mais qui a un sens, une portée, une influence beaucoup plus large que le groupuscule lui-même. Profondément, c'est lui qui fournit le matériau intellectuel et idéologique du Front National aujourd'hui. L'exemple type, c'est le Rassemblement Marine. C'est ce qui se passe à Béziers. C'est Robert Ménard qui est quelqu'un qui a d'autant plus compris ça, l'enjeu politique là-dessus, qu'il a été trotskiste, internationaliste, fondateur de Reporters sans frontières. Vous vous rappelez ça? On ne peut pas comprendre pourquoi il s'est emparé de la question identitaire et que il s'est entouré d'une équipe de têtes pensantes qui sont issues du bloc identitaire à Béziers, sans comprendre son parcours, qui lui donne une intelligence assez subtile des enjeux politiques et idéologiques qui se nouent autour de la question de l'étranger. C'est ça la force de Ménard, c'est qu'il le comprend mieux que d'autres parce que son parcours lui a donné les moyens d'une analyse assez fine de ce qui se passe. Donc étranger sur son sol par les étrangers, les immigrés, les étrangers de tout poil, et étranger sur son sol vis-à-vis des élites. C'est-à-dire qu'on se sent étranger parce que on a le sentiment qu'on est abandonné par les élites. C'est ce qui explique le vote Front National massif à la campagne. Donc effectivement, c'est deux facettes qui touchent au trouble identitaire, qui touchent au trouble identitaire profondément. Et donc il y a des intellectuels qui ne sont pas issus de l'extrême droite, qui tiennent ce discours-là, et notamment des écrivains. C'est toute la théorie de Renaud Camus, qui est un écrivain qui a eu son heure de gloire, qui n'était pas un mauvais écrivain, ou de quelqu'un, un autre écrivain, qui est hélas un très bon écrivain. Je dis hélas parce que du coup ça devient compliqué. C'est comme le cas Céline. C'est compliqué le cas Céline. Parce que on ne s'en tire pas en disant simplement que c'était un nul. Mais non, c'était pas un nul, manque de peau. Et l'autre écrivain dont je veux parler avec Renaud Camus, c'est Richard Millet. Richard Millet, qui est un excellent écrivain. Et aussi bien Renaud Camus que Richard Millet, aujourd'hui, tiennent le discours du grand remplacement. La France est confrontée, et résonne à l'échelle française, à ce problème qu'ils nomment le grand remplacement, c'est-à-dire un processus de renouvellement total de la population française, qui est remplacé par les populations venant de l'étranger. Et de ce concept de grand remplacement découle un autre concept qui est un projet politique qu'ils appellent la remigration. La remigration, c'est, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est que pour éviter le grand remplacement, il faut donc produire le mouvement migratoire inverse. C'est-à-dire faire que les immigrés d'ici, les étrangers d'ici, repartent dans leur terre d'origine. La remigration, c'est leur objectif. Ce discours touche aussi donc les aspects démographiques de gestion des populations et les aspects religieux. Le grand remplacement, c'est aussi que l'islam va remplacer le christianisme originel, pense-t-il cela, de la société française et plus largement européenne. Et un autre livre de quelqu'un qui n'est pas dans ce courant-là de l'identitaire extrême droite, et qui est quelqu'un qui est intéressant à regarder, parce que mine de rien, c'est un très bon écrivain, même ça n'aime pas son univers, c'est Houellebecq, dont le livre connaît un certain succès. C'est un roman, mais ça n'empêche. Si on prend au sérieux la littérature de création est une autre voie de la pensée. C'est la voie de la pensée par le sensible, le singulier, le charnel. Donc il faut prendre au sérieux. Et vous savez que dans son roman qui s'appelle Soumission, Houellebecq décrit en 2020 ou 2022, à la prochaine élection, à mon avis, il fait une faute de crédibilité, c'est que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Qu'adviendra à la présidence de la République une espèce de musulman qui est une forme de Erdogan. En gros, il le décrit comme Erdogan. Un modéré, mais pas vraiment modéré, qui tient ferme sur les principes de l'islam. Et alors, c'est assez drôle parce que ce qui lui a permis d'accéder à la présidence, c'est une alliance avec François Bayrou. C'est Bayrou en tant que démocrate chrétien qui se dit qu'après tout c'est mieux et donc qui va favoriser l'élection de ce président musulman. Et ce qui est intéressant, bon, après on peut discuter à l'infini des qualités littéraires et de la vraisemblance en termes de science-fiction ou de roman d'anticipation de ce roman. Je crois que c'est pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant par rapport à notre propos en tout cas, c'est de constater le succès de ce livre. Il en passe de devenir le best-seller de l'année, hein. L'autre nous trouble, parce que fondamentalement, entre nous et les autres, moi et l'autre, il y a un jeu de miroir. C'est un jeu de miroir, fondamentalement. Et quand le miroir est troublé, tout le jeu est troublé. Et donc, c'est là qu'on voit comment on n'en a vraiment pas fini avec cette question-là.